Vous êtes sur RTL.
Merci Christelle, et excellent week-end à vous.
À vous aussi.
Vous regarderez peut-être les Césars ce soir.
Avec grand
vous
plaisir.
Écouterez
en famille, comme vous disiez.
Exactement, parce que vous écouterez sans doute RTL avec Stéphane Boutsock, et il sera tout à l'heure avec nous, parce qu'on parlera des Césars. Ça nous fera du bien de parler d'autre chose que de cette actualité parfois rude. Gaëlle, qui habite l'Île-de-France. Rebonjour. Vous êtes dans le Val-d'Oise. Pourquoi pensez-vous que c'est inévitable de reconfiner?
Déjà là, on transfère des patients parce que nos hôpitaux sont au seuil critique. Donc on les transfère vers la province, donc on va charger les hôpitaux de province. Il serait peut-être bon de fermer tout de suite les robinets avant que ça ne devienne beaucoup plus important. Surtout qu'on a quand même des gens dans les milieux hospitaliers qui sont fatigués, qui ne se sont pas encore remis de la première vague. Et là, on leur annonce que finalement, c'est rebelote.
Et quel confinement souhaiteriez-vous? Est-ce que c'est un confinement week-end ou est-ce que c'est un confinement semaine?
La semaine, on y est déjà, puisque le télétravail est une norme, enfin doit être une norme.
Oui, mais les commerces sont ouverts, tout est ouvert quand même, les boutiques sont ouvertes.
Oui, tout est ouvert. Enfin, sincèrement, moi, ça va faire bientôt un an et là, j'ai plus l'impression d'être en confinement parce que je suis en télétravail. Je finis les 17h, 17h30. Sincèrement, je n'ai pas le temps d'aller dans les boutiques en fin d'après-midi. Hein.
Oui, mais s'il y avait confinement, ce serait plus rude que ce qui se passe aujourd'hui.
Peut-être commencer par le week-end, parce que justement, les gens se sentant brimés dans la semaine ont peut-être tendance à sortir un peu plus le week-end et à outrepasser un petit peu les règles. Voilà.
Et pour terminer, quelle durée souhaiteriez-vous?
Je vais pas me prononcer dessus parce que je suis pas médecin, je sais pas trop. Ce serait peut-être à eux de voir, mais je pense surtout qu'il faut agir maintenant avant que les services hospitaliers soient trop engorgés et qu'on aille engorger la province alors qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ça.
Même si j'écoutais des voix discordantes expliquer que chaque année c'est la même chose, hein. Des transferts il y en a, chaque année les hôpitaux arrivent à 90% ou quasiment 100% de remplissage, si j'ose dire, même si le terme n'est pas très joli. Donc certains disaient qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, simplement il y a une médiatisation qui est mise en place, mais j'entendais notamment Martin Blachier dire mais tout ça est comme chaque année.
Peut-être qu'on essaye aussi de nous faire quelque part un peu peur pour prendre conscience que ce virus est toujours là et ce virus mute. Mais il met peut-être aussi en exergue les problèmes hospitaliers et la récession qu'il y a eu. Voilà.
Mais j'ai envie de dire que le problème hospitalier reste le problème majeur et que depuis un an, on n'a pas augmenté notre capacité d'hospitalisation, ce qui pose effectivement toujours les mêmes problèmes.
C'est à se poser la question si on a tiré les leçons du premier confinement et de la première vague. Parce que là, on parle du Covid qui a muté. Est-ce qu'à l'avenir, il n'y aura pas d'autres virus, d'autres mutations? Est-ce que le virus de la grippe plus le virus du Covid, ça n'a pas donné autre chose? Enfin, voilà, après, on peut aller très loin. Mais de toute façon, il est sûr que ça fait des années et des années que nos infirmières manifestent, que les médecins se mettent en grève, mais malheureusement ça n'a pas grand effet parce qu'ils marquent en grève sur leur blouse et ils sont toujours là à fournir leurs bons soins à la population. Il serait peut-être temps qu'on se penche peut-être réellement effectivement sur ce sujet pour qu'à l'avenir, pour faire face à des épidémies ou à des pandémies, nous soyons mieux armés.
Je rappelle quand même que nous sommes près de 70 millions de Français, il y a 3992 patients en réanimation. 3992 patients en réanimation. Donc ça permet de mettre en perspective, forcément, ce dont nous parlons. C'était 74 de plus sur les dernières 24 heures d'ailleurs. Il y a eu 266 décès sur les dernières 24 heures et le chiffre était en baisse. Et on est globalement toujours sur un plateau assez haut. Hier, il y avait 27 000 cas confirmés sur les dernières 24 heures. Je vois qu'on va marquer une première pause. Avec Greg Caradoni.
Bonjour.
Vous entendez la musique déjà, cher Greg. Tout va bien ce vendredi?
Tout va bien, merci. Et bien, il me tarde d'entendre Stéphane Boutsock tout à l'heure.
Mais oui, parce qu'on va parler de cinéma avec les meilleurs films. Alors, est-ce que vous êtes allé beaucoup au cinéma cette année? J'ai été surpris parce que je pensais que le nombre de baisses de cinéma serait plus important qu'il n'est. Finalement, on est à moins 30%. Et j'imaginais que ce soit encore plus dramatique. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il confiner l'Île-de-France? Des dizaines, voire des centaines de patients bientôt transférés vers d'autres régions. Des déprogrammations d'opérations. La situation est particulièrement inquiétante, préoccupante. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a reconnu hier soir.
Toutes les 12 minutes, un francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. 1080 patients y sont pris en charge. Presque le pic de la deuxième vague. Si le rythme continue à être le même, nous dépasserons les 1500 patients Covid en réanimation en Île-de-France à la fin du mois de mars, ce qui correspond à un seuil critique pour les hôpitaux de cette région.
Vous êtes soignant en Île-de-France, racontez-nous votre quotidien en ce moment dans les hôpitaux, les cliniques. Faut-il confiner la région? Eh bien, il serait temps, nous dit Frédéric sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. À quoi joue le gouvernement? À force d'attendre, on ne fait qu'empirer la situation. Deux poids, deux mesures avec les Alpes-Maritimes. L'agglomération de Dunkerque dénonce de son côté. Yves, pour Irène, un confinement d'accord, mais encore faut-il respecter les règles? Ah, ça risque d'être compliqué pour les Parisiens, lance Romain. Et qu'est-ce qui inquiète autant Emmanuel Macron, se demande Sylvie. Eh bien, nous attendons vos réactions dès maintenant au 3210 et sur la page Facebook de l'émission.
Nous sommes avec Mathieu à présent. Bonjour Mathieu, qui est facteur et qui habite la Mayenne. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et la question reste la même. Faut-il reconfiner l'Île-de-France?
Bah écoutez, la réponse va être la même que l'auditrice précédente. Pour moi, oui, et sans aucune hésitation et surtout sans attendre davantage.
Mais pourquoi?
Eh bien, parce que en fait, on a, enfin moi, je trouve qu'il y a un vrai problème d'égalité. On est dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Il ne semble pas qu'on ait eu autant d'hésitation, autant de réticence à reconfiner certains départements du Nord. Et pourquoi hésiter avec Paris? En fait, Paris et toute l'agglomération parisienne, parce que pour le coup, ils sont, il me semble, dans une situation plus que critique. Le ministre l'a dit lui-même.
C'est-à-dire que les indicateurs ne sont pas exactement les mêmes. C'est vrai que le taux d'incidence est comparable, mais la tension hospitalière ne l'était visiblement pas. Donc il y avait plus d'espace dans l'Île-de-France pour encore accueillir des malades. Et première chose, et puis la deuxième chose, je pense, c'est qu'il y a un facteur, c'est le poumon économique de la France, l'Île-de-France.
Disons-le. Oui, je comprends bien.
Donc, fermer l'Île-de-France, et je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, mais c'est pas la même chose que fermer une autre région, forcément.
Sans doute, mais on peut.
Même si c'est dur à entendre, peut-être, hein, de considérer qu'il y a des régions qui sont peut-être plus importantes pour la vie économique du pays que d'autres, mais c'est 12 millions de personnes et c'est peut-être plus compliqué.
Sans doute, mais on peut remettre sur la table le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, c'est « quoi qu'il en coûte », mais avec une zone géographique un peu ciblée, si on comprend bien. « Quoi qu'il en coûte », mais pas partout.
Bah, oui, effectivement, cet argument, vous avez raison de pouvoir l'opposer. Mais je rappelle, et je le disais tout à l'heure, dans toute la France, il y a 3992 patients en réanimation. On est 70 millions.
C'est vrai, et quand on regarde, il y en a quasiment bientôt 1500. Enfin, à ce rythme-là, on arrivera à 1500 très vite en région parisienne, donc presque la moitié.
Oui, mais 1500 personnes. Moi, je veux bien qu'on ferme une région de 12 millions de personnes, parce qu'il y a 1500 personnes en réanimation. Hein. C'est un choix.
C'est pas le nombre de 1500 qui pose problème, c'est le fait qu'il bientôt se sera saturé, en fait. Donc on en revient au problème du manque de lits de réanimation, mais ça ne se réglera pas, mais malheureusement, en un clin d'œil.
Mais c'est là que peut-être y a-t-il des solutions de transfert, de déprogrammation qui peuvent être... En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une course contre la montre. Il faut gagner 3 semaines, 1 mois. Puisque au mois d'avril, on aura plus de vaccins, on aura plus de vaccinés et qu'a priori, les temps sont meilleurs. Donc si on arrive à gagner cette course contre la montre, si j'ai bien compris, l'objectif du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est de gagner du temps et de prendre des mesures qui n'ont pas trop de conséquences sur le plan économique.
Oui, ça c'est certain que le plan économique, on sent qu'il a vraiment un poids très important dans la balance. Mais le souci, c'est que est-ce qu'en faisant comme ça, est-ce qu'en se basant sur des « on devrait » parce que le vaccin, pour l'instant, pour moi, on est sur du « on devrait » parce que c'est vraiment quelque chose qui est très imprécis. Le nombre de vaccinés, c'est des estimations.
Ah non, c'est pas des estimations, là. On sait le nombre de vaccinés quotidiennement.
Le nombre futur de vaccinés, des projections.
Il y a eu 6 millions, par exemple, 709 000 injections dont 2 164 000 secondes injections. Donc ça fait quand même déjà 6 millions, pas 6 millions d'ailleurs, ça fait à peu près 4 millions de personnes qui sont vaccinées, j'ai envie de dire. Alors vaccinées avec une injection ou vaccinées à 100% avec deux injections. Mais en gros, c'est à peu près ça. Bon, c'est évidemment insuffisant, mais ça augmente.
Oui, ça augmente.
Ça suit son cours.
C'est pas les moyens qui ont été mis, parce qu'effectivement, en termes de centres de vaccination, de personnel, les médecins qui peuvent vacciner, les pharmaciens aussi, on est bon. Mais le souci, c'est qu'on a un vrai problème au niveau de l'engagement de livraison des laboratoires.
Bien
a priori, c'est encore assez déconnant à ce niveau-là. Et du coup, ça peut fausser les estimations de nombre de personnes vaccinées. Donc, se baser là-dessus pour espérer des temps meilleurs, ça me paraît encore assez approximatif. Enfin, de mon point de vue, du moins.
Bon, en Mayenne, comment ça se passe, le taux d'incidence, qui est souvent le facteur qui est donné?
En Mayenne, on est pas trop mal. J'ai pas le chiffre exact, on n'est pas trop mal. Pays de la Loire, même en général, comparé à ce qu'on a été, parce que, pour rappel, on a quand même vécu un petit moment où on a été très largement pointé du doigt l'été dernier en Mayenne. Et d'ailleurs, on n'avait pas hésité à resserrer les mesures chez nous, et on les avait acceptées parce qu'on avait... de bonne foi réaliser que c'était nécessaire. Comme par exemple, on a été, d'ailleurs je ne comprends pas ça, je vais en parler aussi, je ne comprends pas que pour l'instant, il ne soit obligatoire de porter le masque partout à l'extérieur. Nous, en Mayenne, depuis l'été dernier, strictement partout dans tout le département, on ne peut pas se déplacer dehors sans porter de masque, sans risquer une amende.
À Paris aussi. Alors le taux d'incidence en Mayenne est de 117, donc je rappelle que c'est 50 le taux qui vous met en dehors de soucis, mais la cote d'alerte, c'est 250. Donc là, vous êtes à 117. Il y a une tension hospitalière qui est de 75%. Il y a 5,4% de taux de positivité. Et il y a un taux de vaccination, on estime, à 6,67% de la population qui est vaccinée en Mayenne. Vous habitez près de Laval, peut-être ?
J'habite plus près de Mayenne même, la ville de Mayenne.
Donc vous êtes un peu à l'abri. Votre département est globalement, ça se passe pas trop mal.
On se sent pas nécessairement à l'abri parce que là, je crois qu'on est, on commence une pente ascendante, pas terrible d'après ce que j'ai pu constater, parce que les chiffres ont largement évolué.
C'est les chiffres de ce matin là. Je vous donne 117. Oh, oui, 117 pour 100 000, ça veut dire qu'il y a 0,1% des Mayennais qui ont la dernière semaine, attraper la Covid. C'est ça que ça veut dire concrètement. 0,1%.
Je sais bien que
donc, c'est important de toujours mettre ces chiffres en perspective. 0,1% sur, on le rappelle, un virus qui, dans beaucoup de cas, ne laisse pas de conséquences irrémédiables.
Oui, on est
c'est
d'accord.
C'est important aussi de le dire.
En termes d'évolution sur, par exemple, les 10 ou 7 derniers jours, je crois qu'on avait des chiffres un peu meilleurs que ça récemment. Et là, on commence à repartir sur une hausse de nombre de nouveaux cas pour 100 000, justement. On était encore en dessous, il me semble, de 100 très récemment. Donc ça remonte.
Écoutez, il y a en moyenne du 2 au 8 mars, il y a 51 cas quotidiens. Voilà. Et effectivement, vous avez raison, il y a une légère petite montée. On était, je dirais, à 47 ou 48 cas quotidiens. C'est les chiffres de Covid Tracker, et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller sur ce site qui est tout à fait étonnant. Covid Tracker, on en a pas mal parlé sur RTL. Et vous voyez, en direct, je l'ai regardé en même temps que vous parliez, Mathieu. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci, c'était très intéressant. Monsieur Greg Cananoni, vous nous mettrez peut-être une playlist tout à l'heure spéciale César.
Avec plaisir, bien sûr.
La musique, vous savez, qui annonce là, lorsque le nominé monte sur la scène pour recevoir son César. Il y a une musique que j'aime bien. Vous la connaissez, cette musique? Voilà, par exemple. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Olivier qui habite dans le Calvados. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal, merci d'avoir...
Je vous en prie. Pro ou anti-confinement?
Eh bien, écoutez, moi, comme je disais à votre standardiste tout à l'heure, je serais plutôt dans pour les contre, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je pète un câble, pour être franc, à voir que au fil des jours, au fil des semaines et des mois, eh bien, il y a quand même une bonne frange de Français qui s'accommode de ce côté. On est les responsables en fait de ce qui se passe. On est les responsables de cette saturation. Alors non, trop, c'est trop. Moi, j'en peux plus de voir cet amalgame qui est fait. Quand est-ce qu'on va se réveiller d'un chien dans ce pays qui était pourtant réputé pour être frondeur et qui s'accommode de cette culpabilité en permanence? Je vais vous prendre juste un chiffre, Pascal, parce que vous aimez bien les chiffres. Je vous rappelle quand même qu'on est 70 millions d'habitants et qu'il n'y a que 5000 lits de réa actuellement. Alors j'écoutais attentivement là le journal de Christelle Rebière tout à l'heure qui disait que l'Île-de-France comptait pour elle toute seule un quart de ses lits de réa. Ce qui veut dire en gros qu'il faudrait 1250 lits actuellement. Et on en est à un an de cette pandémie. Mais non d'un chien, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps?
Ce qui est drôle, c'est qu'on avait annoncé, c'est Olivier Véran qui l'avait dit, une possibilité d'aller jusqu'à 14 000 lits. Alors c'est aussi une politique. Hein. Au-delà des moyens, c'est aussi un choix stratégique. C'est-à-dire que si tu ouvres davantage de lits de réa, tu acceptes l'idée que tu auras plus de malades et potentiellement plus de morts. Ça, c'est entendu. Mais au-delà de cet aspect éthique, il y a également l'aspect technique. L'aspect technique, si j'ai bien compris, on pourrait le faire. On pourrait le faire si on vous laisse en donner les moyens, même si tous les médecins, évidemment, ne disent pas la même chose. Mais l'aspect éthique, manifestement, on n'a pas voulu le faire. On ne souhaite pas circuler l'épidémie de manière plus importante.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais si, moi je suis pas un historien, mais quand même, quand on remonte un petit peu dans les âges un petit peu plus anciens, des pandémies, des épidémies, il y en a toujours eu depuis que le monde est monde.
Ben oui, mais bon, on a un rapport à la mort différent.
Et voilà. Bon.
Ben oui, alors, c'est la vie, hein, alors, c'est la société plus exactement qui change.
Oui, d'autre part, Pascal, je vais pas parler de moi sur cette antenne, mais il se trouve que je suis actuellement en sursis pour me faire opérer d'une intervention cardiaque. Et quand je vois que, quand j'entends sur les chaînes de radio et à la télévision qu'on est obligé de déprogrammer jusqu'à 40% des interventions, toutes pathologies confondues, ça me fait froid dans le dos.
Ah ben oui, mais là c'est un peu paradoxal ce que vous dites, vous devriez être un pro-confinement à ce moment-là.
Non mais attendez, non, vous n'avez pas bien compris. Je pense que là, dans le
quoi qu'il en coûte... Si on confine, a priori, si on laisse tout le monde chez soi, l'épidémie pour le coup, elle circulera moins.
Mais je suis confiné chez moi, il n'y a pas de problème. Je suis en télétravail depuis pratiquement un an.
Oui, bon, mais au-delà de votre cas, les gens sortent, les boutiques sont ouvertes, etc. Si on applique un confinement strict, rude, à la manière de la Chine, à la manière de l'Australie, Melbourne, évidemment, ça baisse. Ça, c'est factuel. Évidemment, ça baisse. Et ça baisse drastiquement. À quel prix ? Avec conséquences psychologiques, conséquences économiques, conséquences tout ce que vous voulez. Donc il y a un petit paradoxe dans ce que vous dites, puisqu'effectivement la déprogrammation elle est liée aussi au fait qu'on accepte de vivre avec le virus. Donc le virus circule, donc il y a de plus en plus de malades, donc plus en plus de gens en réanimation.
Mais Pascal, je ne peux pas vous laisser dire ça pour la simple et bonne raison que tout est lié. Le manque de lits de réa, c'est quand même la cause actuellement de cette déprogrammation.
Oui, vous avez raison aussi. Mais si, c'est un raisonnement parallèle, vous avez raison.
Bon, bah alors voilà où je voulais en venir, c'est tout.
C'est-à-dire que si on avait vraiment voulu aller à 14 000 lits, comme Olivier Véran l'avait dit l'an passé, au printemps dernier, effectivement, on ne serait pas en difficulté comme on l'est aujourd'hui.
Bon, bah je suis content de vous l'entendre dire. Voilà. Et ça, j'ai l'impression... Oui, c'est une mince consolation, Pascal. Mais
je suis content que vous soyez content. Bon, vous êtes où? Vous êtes dans le Calvados? On va faire un petit point comme ça dans tous les départements. Ouais, donc, ouais. Calvados, ça se passe comment?
Bah, écoutez, je ne veux pas ramener ma science, mais bon, il se trouve qu'avant d'être en télétravail, je bossais avec le milieu médical. Et donc, j'ai gardé quand même dans mon carnet d'adresses un certain nombre de numéros des professionnels de santé que je côtoyais. Et j'ai cru comprendre, pour ce qui concerne le département 61 et 27, en l'occurrence, que je visitais, il n'y a pas encore si longtemps, bon, on s'en sort pas trop mal.
Ah, vous en sortez bien, puisque là, grâce à la technique moderne, 165 de taux d'incidence. Je rappelle que c'est le nombre de cas sur 7 jours pour 100 000 habitants. Alors, ce qui est intéressant, c'est la tension hospitalière. Il n'y a que 30% de tension hospitalière. Ça veut dire que vous allez peut-être récupérer, même sans doute, des malades de Paris, puisque l'hôpital de Caen est très proche de celui de Paris, c'est 200 km. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des transferts. 30% simplement de tension hospitalière, 5,3% de taux de positivité, un taux de vaccination qui est à 7,7. C'est important parce qu'en Île-de-France, par exemple, il est en dessous de 5. Vous voyez les chiffres ? C'est intéressant,
les
chiffres.
Les Parisiens sont déjà tous les week-ends depuis fort longtemps sur nos côtes.
Bah oui, bah ça change rien, manifestement. Ils ne vous apportent pas le...
Ils passent faire un petit tour par le CHU de Caen, voilà.
Exactement. Manifestement, ils ne vous apportent pas le virus puisque vous êtes plutôt bien. Merci, Olivier. Je m'aperçois d'ailleurs que là où les villes, où les départements sont côtiers, que ce soit le Finistère, les Pyrénées-Atlantiques... Les Pyrénées-Atlantiques, mais également la côte ouest. Souvent, le taux d'incidence est assez faible, hein, près de l'océan et près de la mer. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou il y a du vent, je n'en sais rien du tout, mais chacun joue à l'épidémiologiste. On parlera, je l'ai dit tout à l'heure, des Césars. Je regardais le nombre de personnes qui sont décédées cette année. Caroline Cellier, Claude Brasseur, Robert Hossein, Annie Cordy, Michel Robin, Didier Bezas, Michael Lonsdal, Guy Bedos. C'est incroyable le nombre de stars qui sont décédés en 2020. Donc ça sera aussi ce soir l'occasion de leur rendre hommage. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Parmi les personnalités du cinéma qui nous ont quittés en 2020, il y a Claude Bolling. Et Claude Bolling, c'est évidemment l'inoubliable musicien qui avait créé Borsalino, cette musique de Borsalino, célébrissime. On en parlera tout à l'heure des Césars avec notre ami Stéphane Boutsock. Laurent.
Nous vous attendons au 3210 sur
notre
sujet.
Notre à nous.
Bel hommage. Le vaccin AstraZeneca vous inquiète-t-il? Le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Bulgarie ont suspendu les injections à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins. On parle de 30 cas sur 5 millions de vaccinés. À l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de raison de ne pas vacciner avec l'AstraZeneca. Même discours rassurant chez Jacques Battistoni, c'est le président du premier syndicat de médecins généralistes MG France.
Pas de panique. Quand on vaccine beaucoup de gens en même temps, il continue à se passer des choses dans cette population comme si elle n'avait pas été vaccinée. Ce vaccin, il assure une excellente protection. Je crois que tous les gens qui ont pris un rendez-vous doivent maintenir leur rendez-vous et venir dans nos cabinets se faire vacciner.
Un discours rassurant, c'est ce qu'il faut, écrit Fabien sur nos réseaux sociaux. Ce n'est pas le moment de décourager les gens. Je fais confiance aux différentes organisations, lance Bruno. Partagez-vous ces avis, 3210. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Ce sont les mots hier soir de Marine Le Pen chez nos confrères de BFM. Si elle est élue en 2022, elle formera un gouvernement d'union nationale. La présidente du Rassemblement national a réagi également aux accusations de xénophobie.
Je conteste évidemment formellement cette accusation. Quand vous voyez que je suis arrivée en tête en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun sens.
Intervention parfois curieuse, observe Marie sur la page Facebook de l'émission.
Je trouve cette intervention absolument fascinante, pour tout vous dire.
Ben c'est pour ça que vous allez pouvoir réagir au fond de l'émission.
C'est incroyable quoi, de dire quelque chose comme ça. Roxy Freddy, qui était joué par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, jouait François Capella dans Borsalino. Roxy Freddy, à ne pas confondre évidemment avec un homonyme.
Je pense que j'avais pensé que c'était l'autre.
Oui, non, mais je précise qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, comme on parlait de la musique de Claude Bolling. Justine. Bonjour, Justine.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Il n'y a pas lieu de suspendre les injections du vaccin anti-Covid AstraZeneca en France, a dit hier le ministre de la Santé Olivier Véran. Contrairement à ce que trois pays nordiques ont décidé par précaution, le temps de statuer sur d'éventuels effets indésirables. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont pris la décision inverse en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. Vous êtes infirmière, Justine, votre avis ?
Eh bien, écoutez, moi, comme vous venez de le dire, le principe de précaution devrait s'appliquer, ne serait-ce que pour éviter toutes les retombées par la suite de personnes qui viennent à décéder ou avoir de graves séquelles. Et je pense que on n'a pas suffisamment de recul et justement, on devrait se retirer ou mettre en stand-by en attendant AstraZeneca. Le temps de faire des investigations plus poussées.
Sinon, Justine, vous savez combien de personnes sont mortes avec l'AstraZeneca sur les 5 millions de vaccinés dans ces pays, Danemark, Norvège et Islande. Une personne est morte. Et là, ça pose le problème du bénéfice-risque. En Angleterre, il y a eu 11 millions de personnes vaccinées avec l'AstraZeneca. 11 millions. Pas un souci. Donc, moi, je veux bien qu'avec le principe de précaution, on arrête dès qu'il y a un souci. Mais en fait, on arrête tout. Parce que quand vous allez vous faire opérer de l'appendicite, il y a une possibilité, hélas, d'y rester. C'est ça qui est compliqué, Justine. Moi, je vous donne des arguments contraires. Hein. On peut les contester. Mais une personne morte sur 5 millions.
Mais combien de temps après l'injection ? C'est quasiment immédiat. C'est des réactions à très, très court terme. Qu'en est-il des réactions à moyen terme ? Et des réactions à long terme, le vaccin, il a 3 mois. Donc déjà maintenant, on entend que 3 pays se retirent au niveau de la vaccination AstraZeneca. C'est pas pour rien, quoi.
Il y a sauf que ce dont est mort la personne, la formation d'un caillot de sang. Tous les jours, il y a des formations de caillots de sang. Tous les jours.
Oui, oui.
Donc personne ne sait si la personne qui est morte le lendemain de son injection, elle ne serait pas morte précisément de la même chose sans son injection.
Je suis d'accord avec vous, mais il y a d'autres. Regardez, en Autriche, il y a une infirmière qui est décédée après l'injection.
Oui, mais c'est celle-là. Moi, je parle de celle-là. Il y a un mort.
Oui, oui, un mort, mais qu'en sera-t-il dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années ?
Mais dans quelques années, il y a un moment, on va mourir, hein, ça c'est sûr.
Mais, je suis d'accord avec vous.
Mais les 11 millions... par exemple. Et ça, c'est des chiffres. Moi, là encore, je n'ai pas d'avis, hein, je ne suis pas médecin. 11 millions de personnes vaccinées en Angleterre. 11 millions. Pas un mort.
Là, la personne, est-ce qu'elle était en bonne santé ? Est-ce qu'elle n'était pas en bonne santé ? Est-ce qu'on a vacciné une personne en bonne santé qui est décédée suite à ce vaccin ? Vous voyez, au niveau du bénéfice-risque, ce n'est pas la même chose que de vacciner des personnes.
Mais Justine, et c'est pour ça qu'on parle. En fait, on échange. Pourquoi ? Parce qu'on est... Chacun a raison de son point de vue. Moi, je vous comprends. C'est-à-dire que vous, à titre personnel, vous ne voudriez pas vous faire vacciner. Alors, c'est lundi que l'Autriche avait annoncé avoir cessé d'administrer un lot de ce vaccin. C'est le fameux lot après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de graves troubles de la coagulation quelques jours après l'avoir reçu. Bon. J'entends, hein, Justine, hein, j'entends vos arguments d'ailleurs, et puis j'ai envie de dire pour vous-même, chacun est en conscience ou avec son histoire personnelle, se fait ou pas vacciner. On marque une pause, et puis il y aura Rachida qui est infirmière anesthésiste qui pourra échanger avec vous, Justine. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Justine est infirmière libérale à Valenciennes et elle souhaite qu'on suspende le vaccin AstraZeneca. Et on rappelle effectivement que une jeune femme infirmière de 49 ans a succombé à de graves troubles de la coagulation. Mais Justine, et ce sera ma dernière question, il y a eu une personne décédée. Mais combien de personnes seraient décédées si elles n'avaient pas été vaccinées avec AstraZeneca ?
Encore le recul de la vaccination qui n'empêche de ce fait pas la transmission, déjà premier point. En plus, les personnes qui ont des comorbidités, c'est pas la même chose qu'une personne qui est en pleine santé, qui se fait vacciner. Donc au niveau du prorata, combien de personnes
pourrait ne pas faire le vaccin, faire le Covid et y survivre.
Alors Rachida est avec nous. Il se trouve qu'elle est infirmière anesthésiste. Elle est intervenue plusieurs fois sur l'antenne d'RTL. Je la salue. Bonjour Rachida.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Donc vous écoutiez Justine. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Rachida?
Bah écoutez Pascal, moi je suis pour qu'on continue à vacciner AstraZeneca parce que je pense que ce serait une décision désastreuse d'arrêter AstraZeneca car ça va mettre à mal une campagne de vaccination qui trouve déjà un public réticent. Et d'autre part, les cas qu'il y a eu de patients avec des problèmes, ce sont des embolies pulmonaires qu'ils ont fait. Donc si vous voulez des embolies pulmonaires, c'est des maladies qui peuvent arriver, mais ça n'a aucune incidence avec le vaccin. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a 11 millions d'Anglais qui ont été vaccinés et pourtant il n'y a aucun cas suspect qui est apparu. Ils ont un très bon système de pharmacovigilance et s'il y avait eu quoi que ce soit, on aurait été alerté. Donc moi je pense qu'il faut continuer à vacciner les gens, car si on suspend la vaccination, là on est très mal parti. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne vaccine pas les gens, Justine? Qu'allons-nous faire? Est-ce que vous-même, vous êtes vaccinée, Justine?
Alors non, moi, je ne suis pas vaccinée. Mais pourquoi? Je n'ai pas parlé d'annuler la campagne de vaccination, mais pourquoi pas aussi...
Pourquoi vous n'êtes pas vaccinée, Justine? Parce que vous êtes infirmière et vous êtes potentiellement à risque pour vous et puis également pour retransmettre à des personnes que vous rencontrez?
Bien, écoutez, de toute façon, au vu de la controverse qu'on entend sur les vaccins, je ne suis pas prête de me faire vacciner, en tout cas à l'AstraZeneca, premier point. Après, de manière tout à fait personnelle et non professionnelle, si j'ai le Covid, de toute façon, je serai isolée et j'ai quand même énormément de chance.
Oui, oui, mais enfin, Justine, excusez-moi, là, peut-être qu'on parle d'un autre sujet que la suspension d'AstraZeneca, mais en tant que soignante, quand vous avez choisi cette profession, vous savez délibérément que c'est une profession dans laquelle on doit se protéger et protéger les autres. Donc, je ne comprends absolument pas que vous ne soyez pas vaccinée. Donc, moi, à mon avis, Justine, si vous n'êtes pas vaccinée, vous et d'autres soignants, je vous le dis franchement, en face, vous devriez arrêter de travailler. Vous êtes dangereuse pour les patients. Parce que le Covid, Justine, vous êtes jeune, je ne sais pas quel âge vous avez.
Justine, 28 ans.
Le Covid, vous dites si je l'attrape, eh ben je m'isolerai, tout ça. Non, parce que si vous avez le Covid, déjà, il y a des longs Covid, vous pouvez rester très fatigué pendant longtemps, ne plus avoir de goût dans la bouche. Et le Covid, Justine, est-ce que vous, Justine, vous avez soigné, pris en charge des patients Covid?
Alors, pour répondre à vos questions, déjà, je prends toutes les précautions qui s'imposent vis-à-vis de mes patients et vis-à-vis me concernant, premier point. Ensuite, vous dites que je suis dangereuse pour les patients,
oui.
Mais qu'en est-il des patients qu'on récupère à domicile suite à un isolement à l'hôpital?
Non, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le... Écoutez-moi, Justine, écoutez-moi, là, on ne parle pas de ces patients-là. Je vous dis, vous, moi, si jamais j'étais hospitalisée et que l'infirmière qui me soigne n'est pas vaccinée, je refuse qu'elle me soigne. Vous savez que les infections nosocomiales ont beaucoup augmenté ces derniers temps et que beaucoup de patients ont été infectés par le Covid à cause de soignants. Donc déjà, Justine, j'espère que vous avez toutes vos vaccinations à jour. Parce qu'il faut se faire vacciner.
Bah, Justine, elle a pas appelé pour se faire engueuler en même temps par Rachida.
Ah, pardon.
Je comprends, mais je me mets un peu à la place de Justine parce que c'est vrai que...
Attendez,
Rachida, Justine.
Oui.
Je comprends d'abord, Rachida, elle est un peu offensive. Bon, en même temps, ce que vous dites s'entend. Simplement, pour la couleur ou le ton de l'émission, ne donnons pas une leçon à Justine parce que c'est pas le but de l'échange. En revanche, on peut effectivement aller à argument contre argument, et les arguments de Rachida peuvent s'entendre. Simplement, peut-être, Rachida, mettez un peu de souplesse.
Dans... J'essaye, mais en vieillissant, j'ai du mal.
je m'en aperçois. Donc,
Pascal, je voulais dire quelque chose par rapport au vaccin AstraZeneca. Ce qui est important à dire, c'est peut-être que il y a une question de l'eau ou une contamination ou un excipient qui était défectueux aussi. C'est possible, ça. Ça n'a rien à voir avec le...
Nous sommes d'accord. Non, mais sur AstraZeneca, je pense que c'est... Je comprends, Justine, il peut avoir une phobie, une
oui,
quelque chose qui...
Par contre, excusez-moi de vous interrompre, Pascal, le vaccin AstraZeneca a eu plus de, comment dire, d'effets secondaires sur la population jeune. Ça secoue un peu plus les jeunes que les personnes âgées.
Bon, Justine, c'est intéressant ce que disait évidemment Rachida, mais je trouve que cette épidémie, elle frappe dans nos ADN et chacun réagit au plus profond de ce qu'il est. Et sans doute, Justine, chez vous, y a-t-il une défiance naturelle sur la médecine, quoi que vous soyez une soignante, sur les vaccins plus précisément, et que ça s'incarne dans le débat qu'on vient d'avoir?
Ben, écoutez, déjà, j'aimerais quand même aussi remettre les points sur les i. Les infections nosocomiales ont toujours existé. J'ai toujours des patients qui sortent de l'hôpital avec une infection nosocomiale et il n'y avait pas que le Covid. Plus tard, il n'y aura pas que le Covid non plus. Ça a toujours été.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est la première cause.
Effectivement.
À l'hôpital, c'est ça qui a changé.
Tout à fait. Mais que
donc, il y a des. Comment dire, il y a des. Il y a des patients qui entrent à l'hôpital et ils reviennent avec une maladie nosocomiale. C'est quand même très ennuyeux. Une maladie qu'ils ont. C'est pas le but d'aller
COVID
à l'hôpital.
Ou pas COVID, Pascal. Ça a toujours existé. Et les gens reviennent de l'hôpital sans aucune précaution. Et les professionnels de ville ne sont même pas avertis.
Ben merci en tout cas, Justine et Rachida, pour cet échange. Et puis, il est 13h47. Je vois que. Alors, d'abord, on pourrait décerner le César du meilleur réalisateur. À notre ami Greg Caranoni, mais pour bravo.
Ah, c'est trop, Pascal, merci.
Bravo, et vous avez une petite déclaration à faire pour.
Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé,
bien sûr,
à commencer par vous, Stéphane Boutsock, qui est à ma gauche. J'en ai pour une demi-heure, par contre. Remercier les
gens. Parents qui ont.
Mes parents, mes sœurs, ma femme.
Je me souviens un soir au César, et Jean Poiret avait fait des remerciements, mais c'était époustouflant de drôlerie, et il avait terminé en disant, et je voudrais quand même donner un grand coup de chapeau à Dieu. Pour terminer, je sais pas si Stéphane s'en souvient, mais c'est à Stéphane Boutsock qui est là. Et moi, j'ai un cœur de midinette, mais je vous le dis vraiment au premier degré, j'adore les Césars. Je peux pas vous dire autre chose, Annie Girardot, follement, éperdument, douloureusement. Moi, ça me fait pleurer. Donc, Isabelle Adjani, les versets sataniques, etc. J'ai 50 séquence, Philippe Noiret parlant à Meryl Streep, lui proposant de lui donner sa brosse à dents et son dentifrice. Je trouve que c'est des moments parfois magiques. À tout de suite.
Vous adorez les Césars ?
Ah, j'adore les Césars.
Qui était le meilleur acteur l'année dernière alors ?
Le meilleur, je sais pas forcément qui était, puisque dans ma mémoire restent des moments de magie. Anne Parillaud et Luc Besson, c'était un moment de magie. Charlotte Gainsbourg et son père, c'était magique. Jean Gabin et Michel Morgan, 76. Simone Signoret, qui ne peut pas lire, et c'est Yves Montand qui lui dit qui a gagné le film de l'année.
C'était pas très élégant, c'était un piège. C'était Roche-Dizem.
Roche Dizem, formidable acteur d'ailleurs, formidable comédien. Il y a un très bon film avec lui cette année qui s'appelle Le Bracelet Rouge, je crois, qui est vraiment un film très très réussi. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je me suis trompé doublement parce que Le Bracelet Rouge, en fait, c'était la fille au bracelet. C'est Philippe Rey qui me le précise. Et c'était pas en 2020, c'était en 2019. Bonsoir.
Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une invitation.
Greg Caranoni nous permet une nouvelle fois de recevoir Cyprien Sini.
Bonsoir.
Entre 13h et 14h.
Ah, bonjour.
Bon, qu'est-ce que vous êtes venu nous dire ?
Vous m'avez demandé de venir.
Mais oui, parce que le vendredi, vous nous dites ce qui se passe le soir entre 18h et 19h.
Absolument, on va parler d'Astérix sur
entre
la Lune.
Entre 19h15 et 20h, si je peux me permettre.
On défait le monde.
On défait le monde.
Astérix 19h15, 20h.
C'est pas du tout une BD, vous savez, c'est la mission militaire des Français.
Oui.
Au-dessus de nos têtes, dans les cieux. La guerre des étoiles.
Mais vous allez parler des Césars quand même un peu ce soir.
Non, pas du tout. Il y a une soirée spéciale derrière.
Parlez un petit peu, faites un petit duplex avec Stéphane Boutsock.
Stéphane Dupont, je ne connais pas.
Stéphane Duplex, je vais y l'appeler.
Peut-être Stéphane Boutsock, peut-être qu'on le dérangera, mais il sera en plein préparatif.
Vous ne le dérangerez pas du tout.
Ça va être formidable, on va parler de ça. Et puis alors, vous avez parlé de la coupe mulet ce matin.
Ah, c'est ce matin, ça. C'est le grand retour de la mode de la coupe mulet, ça vous irait très bien.
Oui, je vous remercie.
Court sur le dessus, long dessus.
La graine et le mulet qui avait été couronnée. Très bon film.
Vous voulez vraiment que je vende mon émission. En tout cas, on défait le monde, ça sera remarquable ce soir. Soyez à l'écoute, les amis, il y a un magnifique cadeau à gagner en plus. Et puis on démêlera le vrai du faux de Twitch, Facebook, tout ça, les politiques qui arrivent.
Twitch, ça veut les tiennes.
Voilà, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour les politiques ou pas ?
19h15, 20h, on défait le monde à C'est ce soir. Merci.
Merci. Merci. Hein, bravo, merci.
Vous avez, quel film vous avez préféré cette année?
Alors cette année, j'ai pas eu le temps d'aller trop au cinéma, parce qu'ils sont restés ouverts une semaine.
Non.
Mais sur les conseils de Stéphane Boutsock, j'ai regardé Mission sur la plateforme Netflix. C'est remarquable. La Mission.
Bon, dernier film qu'il a vu, c'est Ben Hur avec Charlton Heston au cinéma. Oh, donc effectivement.
Ah, Charlton Heston, formidable,
magnifique, Rock Hudson. Bon, l'ami Laurent Tessier.
Nous sommes de
ça. Ah. Bah oui. Mais il n'y avait pas les Césars à cette époque-là.
Non, il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde. Un pic qui s'explique par l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée et l'âge plus tardif des grossesses. Vous avez des jumeaux, comment ça se passe à la maison? Dites-le nous au 3210. La 46e cérémonie des Césars ce soir en direct de l'Olympia. Vous pourrez la suivre en clair sur Canal+, et dès 20h sur RTL. On sait déjà qu'un César d'honneur sera remis à la troupe du Splendide. Chaud bouillant, notre spécialiste ciné Stéphane Boutsock est avec nous en studio. Donnez-nous vos favoris, vos pronostics. Vous vous rappelez de votre dernier film au cinéma? Appelez-nous au 3210 3210 dès maintenant.
Est-ce que vous savez la surprise que vont faire les comédiens du Splendide? Parce que paraît-il, ça va être formidable, mais j'arrive pas à avoir l'info.
Ah ben non, tout ça est un petit peu secret encore.
Peut-être le principe
moi,
de la
je
surprise.
Sais qui leur remettra le César anniversaire. Oui. Je peux pas vous le dire.
Ah, vous avez pas le droit?
Non, il y a un petit embargo, comme on dit.
Mais vous avez vu la surprise qui est mise en place? Paraît-il, c'est vraiment très très bien. Non, ces claviers, ils ont écrit un truc très très bien.
Je suis sûr qu'ils ont bétonné, parce que c'est un César anniversaire, hein, c'est pas un César honneur. C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas un truc fini, on célèbre une équipe, un esprit, une époque aussi. Ouais. Non, mais je pense que ça va être très soigné tout ça.
Bon, écoutez, ce soir, et on sait dans la cérémonie à quel moment ce sera?
Ça sera plutôt après 22h, me semble-t-il.
Bon, et c'est une cérémonie qui s'annonce longue, je sais pas, c'est très étrange.
Figurez-vous, je pense que si l'ordre et le timing est suivi, ça devrait durer quand même jusqu'à minuit et demi, quasiment.
Bon, vous allez pouvoir poser des questions à Stéphane qui connaît les stars, lui, qui les approche de près entre 14h et 14h30.
Vous dites ça parce qu'il est à côté de vous?
Non, mais c'est vrai, il a de la chance, il les interroge, il les interviewe. C'est difficile d'être journaliste de cinéma parce qu'il faut avoir parfois... J'imagine quand vous les critiquez parfois ou quand vous critiquez un film et ils n'apprécient pas forcément.
Ah ben non, mais tant mieux d'ailleurs, parce que des fois ça crée même des liens et des dialogues. Moi, la première fois que j'ai rencontré Jean-Jacques Hano, je lui ai dit que je n'avais pas aimé le film, il m'a engueulé, on s'est revus après et puis depuis on se parle beaucoup. Par exemple,
Nadine est là pour AstraZeneca parce qu'on reprend le fil de notre conversation. Nadine, faut-il interdire ou pas AstraZeneca? Bonjour.
Bonjour Pascal Pro. Bonjour.
Et vous habitez Châteauroux, ville de Gérard Depardieu.
Voilà, tout à fait. Ouais, il n'y a plus très souvent ici. Mais bon, je crois qu'il a toujours de la famille. Non, il ne faut pas l'interdire. Attendez, il y a 2-3 jours, les Français râlaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de vaccins. Et maintenant, les mêmes râlent parce qu'ils ne veulent plus faire confiance à ce vaccin. Je crois qu'actuellement, on ne pose pas la bonne problématique. Actuellement, il y a quand même plus de probabilité de mourir de la Covid-19 que de risque des vaccins, non?
Statistiquement, vous avez raison.
C'est pour ça, moi, je trouve que c'est complètement absurde. Je ne comprends même pas qu'on puisse polémiquer là-dessus, si vous voulez. Moi, j'ai envie de faire décaler un de mes petits-enfants. J'ai envie de retourner au cinéma. J'ai envie d'aller au restaurant. J'ai envie de revivre. Actuellement, le Danemark, je crois qu'il a arrêté, ils ont eu un cas.
En fait, c'est l'Autriche. L'Autriche, il y a eu un mort. Et en fait, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont pris la décision, effectivement, d'arrêter.
Voilà,
parce que c'est un lot qui serait suspect.
Bah, oui, mais enfin, dans ce cas-là, on n'avance rien si on applique le principe de précaution surtout. C'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec votre réaction tout à l'heure et avec la réaction de Rachida, parce que ça me dépasse ça. Les Français au début doutaient, non on va attendre parce que l'ARN messager on ne connaît pas. Là on a un vaccin qui n'est pas ARN messager, qui est un vaccin classique, et ben on doute aussi. Non qu'on arrête.
Et 4 autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce fameux lot livré dans 17 pays et qui comprenait 1 million de vaccins. L'Italie a elle aussi interdit l'usage jeudi d'un autre lot encore à titre de précaution. Merci beaucoup Nadine. Il est 58, Olivier Bois dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
14h. évidemment sur AstraZeneca, faut-il suspendre ou non ce vaccin ? Olivier Bois, d'abord le rappel des titres.
Et cette information RTL d'abord d'Arnaud Touche, le gouvernement a demandé à la SNCF de mettre à disposition 2 TGV pour pouvoir évacuer des patients touchés par la Covid en Île-de-France. Les trains sont en préparation et seront opérationnels d'ici mardi. Ces évacuations qui sont devenues indispensables, les hôpitaux franciliens sont saturés. On rappelle ce chiffre, en ce moment un patient est admis en réanimation toutes les 12 minutes à Paris et en région parisienne. Vous en parliez, Pascal, l'Organisation mondiale de la santé affirme ce midi qu'il n'y a pas de raison de ne pas vacciner avec AstraZeneca, mise au point alors que le Danemark, effectivement l'Islande ou encore la Thaïlande ont décidé de suspendre par prudence en attendant de savoir s'il y a un lien entre la vaccination et les cas de thrombose détectés. Disneyland Paris ne rouvrira pas ses portes le 2 avril comme envisagé jusque-là. Les restrictions sanitaires ne le permettent pas selon le groupe, notamment les restrictions de déplacement pour les touristes en Europe. L'ex-médecin de l'équipe cycliste Sky a été reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage, ce qu'il a contesté au cours de l'audience. Ce verdict soulève 2 grandes questions alors que la Sky a dominé le cyclisme et le Tour de France, particulièrement pendant des années entre 2011 et 2018. Et puis un mot de football féminin, Ligue des Champions donc dames, Lyon affrontera le vainqueur du match entre le PSG et Prague en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà Pascal pour le flash.
Merci Olivier, à 14h01 on continue la discussion.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
J'imagine les anti-vaccins qui doivent se jeter sur le dossier AstraZeneca pour dire, regardez, les soucis, il y a des pays qui l'interdisent. C'est ça aussi, le mal est fait, j'ai envie de dire, pour certains qui sont extrêmement réticents. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Vous êtes maman au foyer en Moselle.
Oui, exact.
Bon, vous êtes vaccinée, vous avez été vaccinée à AstraZeneca.
Oui, il y a 2 semaines maintenant.
Et comment allez-vous ?
Eh ben, je vais très bien sur mes 2 jambes.
Bon, donc vous êtes satisfaite ?
Ah oui, je suis pleinement satisfaite.
Mais pourquoi vous étiez vaccinée puisque vous êtes jeune ?
Eh ben parce que je suis allée voir en fin de journée mon médecin traitant pour ma fille. Et comme il lui restait une dose, plutôt que de la gâcher, il m'a demandé si j'étais opposée à la vaccination ou pas. Donc voilà, j'ai profité de la dose.
Ah oui, donc c'est en dehors d'une certaine manière des règles, mais c'est quand même le médecin qui vous l'a proposé. Mais ça, c'était pour la première dose, mais il y aura une deuxième dose quand même ?
Ah oui, j'ai déjà ma date, c'est déjà fixé au 15 mai.
D'accord. Bon, bah écoutez, il n'y a pas eu de fièvre, il n'y a pas eu d'effet secondaire.
Si, j'étais pendant 24 heures complètement HS, forte fièvre. Pour une fois, c'était moi qui faisais la bouillotte. Et 24 heures plus tard, après c'était fini, plus rien. Je me suis levée le matin, plus rien, plus de maux de tête, plus de température, donc c'était impeccable.
Et c'est ce que votre médecin vous avait dit, qu'il y a parfois ce genre d'effets secondaires ?
Ouais, il m'avait dit, mais moi j'ai voulu faire la forte tête, ne pas prendre de paracétamol, et puis bon, je sais que la prochaine injection, là par contre... Je prendrai le paracétamol pour éviter d'avoir trop bobo la tête.
Bon, Elisabeth, on ne va pas poursuivre la discussion parce que ce que vous dites d'abord est très intéressant, mais c'est vrai que la liaison n'est pas parfaite. Donc, je vous remercie grandement. On va parler d'Alain, notre ami Stéphane Boutsock est là et on va parler beaucoup ce soir des Césars. Mais par exemple, ce soir, vous rentrez tous dans la salle, vous serez tous avec des PCR et sur les tournages, c'est en ce moment PCR quasiment tous les jours.
Alors, test PCR obligatoire en amont et test antigénique ce soir à l'arrivée à l'Olympia. Donc, il faut avoir les deux. Et oui, sinon les tournages, les comédiens, les techniciens, enfin toute personne qui entre sur un plateau de tournage, et Dieu sait si ça tourne beaucoup là depuis quelques mois, ça s'est pas arrêté en fait, sont testés au moins une fois par semaine et généralement le lundi en retour de week-end. Bah oui, sinon ça marche pas.
C'est quasiment le...
Ça peut être des clusters très très embêtants parce que même si les équipes sont réduites, il y a vite fait d'avoir parfois une cinquantaine de personnes au même endroit pour tourner un film.
Parce que les gestes barrières, par définition, n'existent pas forcément.
Ah ben, entre les comédiens, c'est très très compliqué.
Voilà, qu'on ne porte évidemment pas le masque.
À l'image, non. Hors caméra, oui, évidemment.
Donc c'est compliqué, forcément, il faut multiplier, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, c'est à peu près les mêmes règles, il faut multiplier les contrôles. Alain est avec nous, qui est chauffeur routier. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Alors c'était notre question sur l'AstraZeneca, et puis on voulait également parler des déplacements peut-être, parce qu'il y a beaucoup de déplacements qui se mettent en place aujourd'hui, beaucoup de patients qui doivent quitter une région pour aller dans une autre.
Oui, je trouve que si ça peut permettre de désengorger les hôpitaux, je trouve que c'est nécessaire. Moi je serai pour ma part vacciné le 25, je ne sais pas avec quel vaccin. Je suis passé à côté, j'ai été cas contact il y a une dizaine de jours, et les deux tests réalisés se sont révélés négatifs. Nous sommes, nous, dans notre métier, mis de côté, entre guillemets, nous accédons de moins en moins aux quais chez nos clients.
Aux caisses ? Afin de nous...
Aux quais.
Ah, aux quais, pardon.
Okay. Les quais de chargement et de
déchargement. Oui, pardonnez-moi, les quais de chargement.
Voilà, là, vous voyez, je suis là chez un gros distributeur à, dans le sud, et je suis resté dans mon camion pendant que le cariste chargeait le camion. Voilà, partout où l'on va, on trouve énormément de choses qui sont faites pour tant protéger les uns que les autres. Et puis, j'ai 55 ans, je souffre de bronchite asthmatiforme. Donc, je n'ai pas besoin, franchement, d'avoir cette cochonnerie qui me tombe dessus, quoi.
Merci voilà. Alain de ce témoignage. Et puis, comme vous êtes un fan de cinéma, vous allez rester avec nous parce qu'on pourra parler des Césars. On aura peut-être un dernier auditeur sur AstraZeneca. Et après, c'est promis, c'est 100% César. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et venez interroger Stéphane Boutsock, notre spécialiste cinéma, sur les Césars ce soir. Avant de parler des films, c'est des nouveaux Césars.
Sur la forme, vous voulez dire ?
Oui, ah bah oui, c'est une année particulière.
Alors, hormis le contexte, évidemment, c'est aussi l'année d'après le chaos de l'an dernier, l'affaire Polanski, la démission de l'équipe Terzian qui était en place depuis 17 ans. L'Académie a revu ses statuts, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, avec d'un côté Véronique Kayla, l'ancienne patronne d'Arte, et Eric Toledano de Toledano Nakash. Tous les statuts ont été revus, il y a plus de parité, il y a plus de diversité, il y a plus de transparence, c'est ce qu'on demandait. Donc, c'est un chantier de 2 ans, hein. C'est un gros chantier, on va voir. Mais c'est vrai que c'est les premiers Césars d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle époque. Donc c'est intéressant aussi.
Avec un film qui a plutôt bien marché cette année, Adieu les cons, oui, qui est dans la catégorie meilleur film. Alors je ne sais pas si Elisabeth est déjà avec nous et Alain doit être aussi avec nous. Alain qui intervenait tout à l'heure sur le vaccin, mais il se trouve qu'Alain est un fan de cinéma et qu'il voulait également dire quelques mots sur cette cérémonie. Peut-être également, Alain, sur des films que vous avez beaucoup aimés cette année.
Alors absolument, cher Pascal. Moi, j'ai celui qui a été le plus nominé, qui est du Monsieur Dupontel. J'ai toujours apprécié ce monsieur et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je pense que ça mérite vraiment d'obtenir le César. Voilà.
Quelle fréquence habituellement au cinéma, Alain, par an ou par mois?
Alors, en règle générale, j'ai le plaisir d'y aller au moins une à deux fois par mois, puisque ça me permet complètement de m'évader et de changer d'univers quand je suis dans une salle obscure. Je m'imprègne complètement de ce que je regarde et j'arrive à en oublier qu'à un moment, il faut sortir de la salle.
Quel type de film vous aimez voir ?
Alors, moi, je suis très film d'aventure, mais j'aime les psychodrames également. J'aime des films... avec une belle histoire, j'entends les histoires profondes, celles qui ne sont pas révélées aux premières minutes. Et voilà, j'aime les films bien construits, assez peut-être certains qualifieront de compliqués à comprendre, mais quand on va au bout, voilà.
Non, mais je trouve que vous en parlez bien, Alain.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Alain, parce que vous avez cité deux films, en effet, qui sont les plus nommés cette année. Le film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et le film de Dupontel, Adieu les cons, qui est nommé, lui, 12 fois, 13 fois pour Mouret. Et ces deux films, qui sont épatants et formidables tous les deux, mais qui sont très opposés. Il y a un film très littéraire, qui est le film de Mouret, et puis il y a un film très instinctif, un peu brut de décoffrage, qui est le film de Dupontel, mais au final, ce sont deux visions du cinéma français. Ce sont deux belles émotions, donc c'est vraiment super d'avoir vu les deux déjà.
Ouais, ben écoutez, merci beaucoup, mais c'est vrai que Dupontel j'aime beaucoup, et puis Emmanuel Moiré, c'est quelqu'un que j'aime aussi énormément. Voilà, et puis je trouve que Eric Toledano est tout à fait à sa place,
ouais,
comme président cette année avec sa co-présidente Elisabeth, le nom m'échappe.
Véronique Kayla.
Exactement.
Ben merci. Exactement. Vraiment, Alain, parce que vous parlez très bien de cinéma. Donc, je vous propose de rester avec nous. Elisabeth est là également. Bonjour, Elisabeth.
Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Elisabeth.
Vous avez pu aller au cinéma régulièrement cette année, malgré la fermeture ?
Non, pas trop, parce que j'ai une maladie neurodégénérative, donc ça m'empêche de sortir quelque peu. Mais j'ai vu surtout celui de Dupontel avant le confinement d'octobre. Et vraiment, j'ai trouvé que ce film était très beau. Il m'avait beaucoup ému. Mmh. Et j'ai adoré Virginie Efira, parce que j'aime beaucoup cette actrice, et vraiment, j'ai trouvé vraiment superbe dans ce film.
C'est un des grands succès de l'année. Hein.
Oui, oui, c'est un de mémoire comme ça. Je vous dirais qu'il a fait 750 000 entrées autour de là, ce qui est une performance, parce qu'il est resté assez peu de temps, je crois même qu'il est resté 10 jours à l'affiche avant le deuxième confinement. Et Virginie Efira, moi, je trouve... Alors moi, j'ai un petit coup de cœur pour Laure Calamy, qui joue dans Antoinette dans les Cévennes, cette actrice qu'on a découvert dans la série 10%, notamment. Mais j'aimerais bien que Virginie Efira ait le César, parce que d'abord c'est une immense comédienne, c'est sa troisième nomination, elle l'a jamais eu évidemment, et ce qu'elle fait chez Dupontel est pas facile, parce qu'elle arrive à être émouvante, extrêmement drôle, sublime, défaite par moments. Je trouve que c'est un très 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 beau moment de comédie.
Qu'est-ce que vous avez aimé, Elisabeth, dans Adieu les cons?
Le côté effectivement décalé de Dupontel, et puis après on retrouve cette émotion de la fin, vraiment, je trouve que c'est vraiment un bon numéro d'artiste, quoi, parce qu'il y a une palette de sentiments et qui est formidable, quoi.
Avec une réalisation très enlevée.
Non, mais c'est un grand metteur en scène, Dupontel. C'est quelqu'un qui a une vision, comme on dit. Vous regardez Au revoir là-haut, qui était son film précédent, qui avait été très récompensé au César. Vous remontez jusqu'à Bernie au début. Enfin, il a un style très coloré, très burlesque par moment. Et par moment, en effet, comme vous le dites, très émouvant, tragique aussi, parce qu'il y a une vraie noirceur aussi chez Albert Dupontel. Et je trouve que Adieu les cons est le parfait condensé de tout ce qu'il a fait jusqu'ici.
Je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a plus d'émotion dans Adieu les cons, par exemple, que dans Au revoir là-haut, que j'avais trouvé un poil froid.
Mais c'était une fresque historique, il y avait des gros moyens, voilà, il y avait la guerre de 14-18, etc. Mais je suis d'accord.
Les cons, c'est un film merveilleux.
Ah,
c'est un film à voir en couple, ou en famille d'ailleurs, ou en tout cas à partager. Et c'est un film tendre, donc c'est un film réussi de ce point de vue-là. Vous allez écouter ce soir Stéphane Boutsock et regarder les Césars, Elisabeth?
Je vais voir si Virginie
Efira
gagne son prix.
Croise les doigts, bien sûr, évidemment.
Voilà. Et bien vraiment, merci beaucoup. Jacques est avec nous, Jacques, pour parler des Césars. Bonjour Jacques, qui habite dans le Jura. Et bien Jacques sera là après la pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Stéphane Boutsock, et ce soir vous pourrez l'écouter de 21h à minuit et demi. Vous serez avec qui d'ailleurs cette année?
Moi, je serai à l'Olympia. Il y a très peu de journalistes, mais nous sommes partenaires de Canal+, donc nous avons accès à l'Olympia, donc on a un studio RTL là-bas, mais ici, à votre place, il y aura Vincent Perrault et Dominique Besnéard, qui va aussi mener la soirée avec nous. Ça va être super.
Bon, parlons de quelque chose qui n'est pas réjouissant, bien sûr, mais c'est les personnalités du cinéma qui sont décédées cette année.
C'est incroyable,
J'ai pas souvenir d'avoir année. Caroline Cellier, Claude Brasseur, Robert Hossein, Tony Marshall, Vladimir Yordanov, qui est un acteur merveilleux, Annie Cordy, Michel Robin, Didier Bezas, Michel Piccoli, Michael Lonsdal, Suzy Delair, Guy Bedos, Daniel Cauchy, Robert Castel, Maurice Barrier. Je ne parle même pas de Kirk Douglas, Sean Connery ou Olivia de Havilland.
Plus tous les techniciens qu'on ne citera pas, mais il y a eu beaucoup de personnalités du cinéma qui sont
partis. Plus Jean-Pierre Bacri, Claude Bolling, et ça, c'est incroyable.
Oui, c'est en partie Covid, malheureusement, pour certains d'entre eux, et puis pour certains autres, l'âge aussi, d'autres maladies, mais c'est vrai que c'est une année assez hallucinante. Et les hommages cette année, vous savez que généralement, c'est une séquence très particulière. Alors, il y aura ce moment-là où on va passer en revue un certain nombre de noms que vous avez cités. Et puis, il y aura, ça je peux vous le dire, des hommages plus appuyés, plus solennels. Il y en aura un pour Claude Brasseur, il y en aura un pour Michel Piccoli, il y en aura un pour Jean-Pierre Bacri, même s'il est mort il y a quelques mois, il n'est pas mort en 2020, mais c'est encore assez récent. Et il y aura un hommage, et ça je trouve ça très intelligent, intéressant, à Jean-Claude Carrière, qui a écrit aussi tellement de scénarios pour tellement de grands films. Et je pense qu'on évoquera aussi Dabadie, évidemment, à travers Claude Brasseur, par exemple.
C'est des monstres, Piccoli,
c'est des géants.
Géant. Brasseur, c'est un très grand.
D'ailleurs, Piccoli est sur l'affiche des Césars avec Romy Schneider.
Oui, alors elle est formidable.
Très, très belle.
Cette affiche, c'est effectivement lorsque Romy Schneider est en train de taper à la machine et que Piccoli la regarde, et c'est le regard de Sautet. Évidemment, c'est une affiche très, très émouvante. Vous avez raison. Il y aura donc hommage pour Claude Brasseur, Dabadie, vous l'avez dit.
Il sera évoqué, je pense, Jean-Louis, évidemment. Piccoli, Jean-Claude Carrière et Bacri.
On a peut-être quelques sons, quelques dialogues à vous proposer, et je crois que c'est un dialogue de Claude Brasseur.
Foie gras truffé.
Du Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre.
Une habitude, monsieur Fouché.
Il reste que cette fois, ce ne sont pas les alliés qui sont sous vos fenêtres, mais le peuple parisien.
Qui nous déteste.
Qui vous déteste.
Bon, vous avez reconnu les voix de Claude Riche.
C'est le souper, ça.
Exactement, de Jean-Claude Briseville. Ouais. Et la voix tellement reconnaissable de Claude Brasseur, ouais, qui aurait été formidable. Ça sera vraiment très émouvant, j'imagine. Alexandre Brasseur sera peut-être dans la salle.
Oh, bah, sans doute, oui, sans doute.
Ingrid est là pour parler des Césars et du cinéma. Bonjour, Ingrid.
Oui, bonjour.
Quelle année cinéma vous avez eue en 2020, Ingrid ?
Bah, année cinéma très compliquée, puisqu'on n'a plus le droit d'aller dans les salles. Donc, forcément, cet été, on en a profité, mais très peu et très rapidement. Donc, on aimerait bien que ça revienne le plus rapidement possible.
Et quel film vous a marqué l'année passée ?
J'ai beaucoup aimé celui, alors excusez-moi du titre, mais celui qui est beaucoup nommé ce soir au César.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Voilà, exactement. Exactement. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des prix pour ce film-là, parce que je trouve qu'il était très très bien.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film ?
La cohérence, le jeu des artistes, enfin tout. C'était, je trouve que c'est un très très beau film.
Le pitch de ce film ?
Ah bah c'est un marivaudage. Les films d'Emmanuel Mouret, généralement, ils sont très, très, très écrits. Il avait fait Mademoiselle de Jonquière il y a quelques années avec Édouard Baird et Cécile de France, qui était un film merveilleux, film en costume. Là, c'est une sorte de marivaudage, oui, très littéraire. Il y a Camélia Jordana, et il y a Vincent Macaigne, il y a Nils Schneider, qui est nommé d'ailleurs dans Les Meilleurs Comédiens. Il y a Guillaume Wix, il y a plein d'acteurs formidables. Et c'est en fait, est-ce que je te trompe ? Est-ce que je te trompe pas ? Et si je te trompe, pourquoi je te trompe ? Ah bah si je t'avais pas trompé. Voilà,
c'est très français.
C'est très français.
Parfois très caricaturalement
ouais,
français.
Oui, mais pas là. Là, c'est charmant, en plus. Oui. Voilà, c'est vraiment charmant.
Bon, c'est un film un peu intello.
Oui, un petit peu, mais qui a quand même fait son joli score. Hein.
Mais ce que j'aime beaucoup chez Stéphane, pour vous écouter tous les matins, c'est que vous aimez tous les cinémas. C'est
alors,
pas si fréquent.
J'aime tous les cinémas, mais j'aime pas tous les films.
Oui.
Vous voyez ?
Bien sûr. Mais ça, c'est normal.
Mais vous aimez alors, tous vous les dire, cinémas. Quand vous parlez de cinéma, et notamment sur une radio comme la nôtre, oui, si vous n'avez qu'un genre de cinéma, d'abord, vous vous ennuyez à la longue, et puis, il ne faut pas faire ce métier. Parce que il faut aimer l'animation, il faut aimer les Marvel, il faut aimer les Mouret, il faut aimer les Dupontel. Vous
voyez ? Mais il y a une ouverture qui n'est pas si fréquente parmi les critiques de cinéma.
Je prends comme un joli compliment.
Vous êtes que j'entends parfois et qui sont dans des chapelles, ce qui n'est pas votre cas. Greg Caradoni nous propose peut-être un autre extrait de...
Ah.
Greg de...
Je peux vous proposer Max et les Ferrailleurs.
Ah, volontiers.
Combien veux-tu ?
Le plus possible.
Combien plus possible ?
Il n'y a pas de limite. Un million si tu veux. Le minimum c'est 10.
Non, c'est pas la peine.
De quoi ?
Te déshabiller, c'est pas la peine.
Tu ne veux pas faire l'amour ? Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Rien. On passe à maman.
T'as quelque chose ?
Non, pourquoi ?
On fait rien du tout.
J'aime jouer aux cartes, mais là j'ai pas le temps.
T'as besoin de monter avec une fille pour jouer aux cartes ? T'as pas d'amis ?
Si, beaucoup trop.
Il y aura Michel un hommage, Piccoli, Romy Schneider.
Voilà, il y aura un hommage ce soir à Michel Piccoli. C'est un film de Sautet, Max et les Ferrailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, ben vous avez beaucoup de chance parce que vous allez avoir un plaisir extraordinaire à le découvrir. Il est avec son chapeau. Il y a François Perrier également.
Il y a le papa de Lambert Wilson. Il y a George Wilson.
Il y a George Wilson. Il y a François Léotard.
Il y a
effectivement, au tout début du film. C'est un film absolument extraordinaire. C'est donc ce soir. Alors, c'est toujours le jeu des favoris, forcément. Qui est favori parmi le meilleur film ? Je ne vous demande même pas votre avis, mais celui de ces films qui est donné comme gagnant ce soir. Il y a Adieu les cons, Adolescente, Antoinette dans les Cévennes, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, et Été 85, dont on n'a pas parlé. Là.
Non, moi que j'aime beaucoup le cinéma de François Ozon. Il a été nommé, c'est sa sixième nomination à Ozon. Il n'a jamais rien eu.
Ah bon ?
Jamais de prix majeur. Donc je me dis que c'est peut-être son année, c'est un peu le résumé
il
de son
pas
cinéma.
Aimé.
C'est pas qu'il n'est pas aimé, c'est qu'à un moment il est toujours très nommé, et puis à un moment il y a toujours le film soit phénomène ou. Faut pas oublier aussi que c'est la profession qui vote, c'est pas le public du tout, donc il y a peut-être d'autres enjeux. Ne négligeons pas Adolescente, qui est un film qui a fait 100 000 entrées, qui est un documentaire mais époustouflant. Le cinéaste a suivi pendant 5 ans deux jeunes filles du collège au bac. C'est un moment de vie incroyable. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, c'est pas un documentaire. Ce sont des comédiennes, elles sont époustouflantes. Mais les deux filles, totalement différentes, elles sont époustouflantes. C'est un grand film et je pense ça peut être une des surprises de ce soir. Adolescente.
Meilleure actrice, Laure Calamy.
Favorite, à mon avis.
Martine Chevalier,
pour le film 2, qui est nommé avec une autre actrice du film, qui est Barbara Sukhova. C'est le film français. Enfin, c'est un film produit par la France, qui est fait par un Italien qui défend la France aux Oscars pour la catégorie du film étranger. Et il est nommé puisque le film est français.
Virginie Efira, Adieu les cons, et Camélia Jordana. Mais vous voyez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et sans doute ne connaissent-ils pas Laure Calamy ou Barbara Sukhova. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de génération par rapport au nom qui était traditionnellement donné dans les Césars il y a 20 ou 30 ans, où vous aviez vraiment déjà des stars quand vous étiez nommé. Il était rare que vous soyez parfaitement inconnu.
Oui, mais ça... Alors, Virginie Efira, elle est là quand même depuis maintenant un petit bout de temps, mais Laure Calamy, c'est bien aussi de saluer des actrices qui sont en phase ascendante, qui montent et qui arrivent à une notoriété. Il y a eu la série 10% qui a fait beaucoup pour elle. On l'a vu beaucoup dans des seconds rôles, dans plein de films, Laure Calamy. Et là, c'est vrai qu'Antoinette, ça a été un gros succès. Ça a été plus de 700 000 entrées cet été quand même. C'est l'histoire de cette institutrice qui part dans les Cévennes avec un âne. Et ça a été, c'est un film charmant, adorable.
Le pitch donne envie. Le meilleur acteur, et on terminera avec
Patrick,
là.
Je vous le signale.
Le meilleur acteur, pareil, Sami Bouajila.
C'est le favori, Sami Bouajila. Je vous le dis, ce soir.
Jonathan Cohen. Pour Énorme, Albert Dupontel qu'on connaît, Neil Schneider dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et puis Lambert Wilson pour De Gaulle, qui est un film qui n'a pas marqué, j'ai envie de dire.
Alors, qui a marché.
Mais on en a peu parlé.
Y a eu pas mal de promos. Moi, vous savez, sur le fond, si au César on récompense une performance d'acteur et puis aussi un parcours, je trouve que Lambert, il aurait sa place ce soir.
Eh bien, on vous suivra. Merci Stéphane, c'est toujours un plaisir de vous écouter à ce micro. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Le vaccin AstraZeneca vous inquiète-t-il ? Justine est infirmière libérale à Valenciennes.
Le principe de précaution devrait s'appliquer. On n'a pas suffisamment de recul et justement, on devrait se retirer ou mettre en stand-by le temps de faire des investigations plus poussées.
Faisons rentrer Rachida au 3210, infirmière en région parisienne.
Ce serait une décision désastreuse d'arrêter AstraZeneca car ça va mettre à mal une campagne de vaccination qui trouve déjà un public réticent.
Et si vous mélangez Rachida et Justine ?
Est-ce que vous-même, vous êtes vaccinée, Justine ?
Alors non, moi, je ne suis pas vaccinée, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas parlé d'annuler la campagne.
Si vous n'êtes pas vaccinée, vous et d'autres soignants, vous devriez arrêter de travailler. Vous êtes dangereuse pour les patients.
Et dans les auditeurs, la parole, nous adorons nous donner de petits surnoms.
Laurent.
Nous vous attendons au 3210 sur
notre
d'autres
Roxy
sujets.
Freddy à nous. Roxy Freddy qui était joué par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo jouait François Capella dans Borsalino. Roxy Freddy à ne pas confondre évidemment avec un homonyme.
Je pense que j'avais pensé que c'était l'autre.
Oui, non, mais je précise qu'il n'y ait pas d'ambiguïté comme on parlait de la musique de Claude Bolling.
Quel dommage. Bon, une annonce aujourd'hui dans l'émission.
Je pense que je vais gagner la présidentielle.
Quoi ? Pascal Praud à l'Élysée en 2022 ?
C'est pas moi qui le dis. C'est Marine Le Pen qui l'a dit hier. Le vaccin AstraZeneca vous a eu peur. Hein.
Et le vendredi, c'est Cyprien Signy, le passage pour annoncer le programme dont défait le monde. Vous avez quelque chose à dire, Cyprien ?
C'est le grand retour de la mode de la coupe mulet, oui, ça vous irait très bien.
Pascal. Oui, je vous remercie.
Ah, belle révélation. Le vendredi, c'est aussi la semaine de Flavie et Pascal. Et quelques doutes dans le plus célèbre couple radiophonique.
Vous savez, hier, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Mais avec Pascal, vous vous aimez pas ?»
Ah bon ?
Bah oui, vous m'aimez, vous ?
Bah non,
parce que moi, je vous aime bien aussi.
Bien sûr,
et une question terrible cette semaine.
Quelle est la chanson que vous écoutez en secret ? Je veux dire, le titre que vous adorez, mais que vous n'assumez que lorsque vous en avez un petit coup dans le nez, et encore.
« Dreams are my reality, la boum ».
Oh, c'est trop mignon !
Mais oui, c'est...
Mais vous avez un vrai cœur, vous, hein ?
C'est vrai.
En fait...
Ah, et comme Flavie ne répond plus aux attentes de Pascal, Pascal Pro se réfugie dans les bras de Florian Gazan des Grosses Têtes.
Vous voulez pas aller à Danemois, c'est moins loin que Sainte-Hélène.
C'est étonnant d'aller à Sainte-Hélène. Vous n'êtes pas intéressé par aller à Longwood là-bas, ça m'intéresse.
Si, il y a un hôtel.
On en trouvera un, on dormira sous la tente.
Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthylène.
Oh, ça s'annonce chaud, 14h27, il est l'heure d'en effet pour s'entendre.
Il est l'heure, mon Sylvie.
Il est l'heure,
quittons-nous avec un peu de poésie et d'amour.
La très belle et très charmante et très subtile Flavie Flamand est en train d'entrer dans ce studio. C'est toujours un plaisir car que le jour commence et que le jour finisse. Sans jamais que Titus puisse revoir Bérénice.
Oh, je fonds, vous êtes romantique, Pascal.
Moi, j'ai un cœur de midinette.
Ah, on le sent. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec une chanson de circonstance avec les Césars ce soir.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
arrive, viens voir les comédiens. Voir
la pause et on revient dans une seconde avec Flavie.
Qui arrive,
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.